Bibliothèque sonore. Nouvelles, essais, poèmes, romans. Murmurer ou déclamer un texte. Faire vivre des textes, faire résonner les mots, partager des trouvailles. Bibliothèque sonore. Il existe dans toute vie, et particulièrement à son aurore, un instant qui décide de tout. Cet instant est difficile à retrouver. Il est enseveli sous l'accumulation des minutes qui sont passées par millions par-dessus lui et dont le néant est frais. Cet instant n'est pas toujours un éclair. Il peut durer tout l'espace de l'enfance ou de la jeunesse et colorer d'une irisation particulière les années en apparence les plus banales. La révélation d'un être peut être progressive. Certains enfants sont si ensevelis en eux-mêmes que l'aube ne paraît jamais se lever sur eux, et l'on est tout surpris de les voir se dresser comme Lazare, secouant leur linceul qui n'était que des langes. C'est ce qui m'est arrivé. Mon premier souvenir est un souvenir de confusion, de rêve, diffus, s'étendant sur des années. On n'a pas besoin de me parler de la vanité du monde. J'en ai senti mieux que cela, la vacuité. Je n'ai pas connu d'instant privilégié à partir duquel mon être aurait pris un sens, un de ces instants auxquels par la suite j'aurais rapporté ce qui m'avait été révélé de moi-même. Mais dès l'enfance, j'ai connu beaucoup d'états singuliers qui n'étaient, pour aucun d'entre eux, des prémonitions, mais des monitions. Dans chacun, il me semblait toucher quelque chose situé en dehors du temps. Ma grande affaire aurait dû être de me demander ce que signifiaient exactement ces contacts, d'opérer une liaison entre eux, bref, de faire comme tous les hommes qui veulent se rendre compte de ce qui se passe en eux et le confronter avec le monde, transformer mes intuitions en système. Un système assez souple pour ne pas stériliser ses intuitions. Mais au contraire, j'ai laissé ces fleurs se faner l'une après l'autre. J'ai couru de l'une à l'autre, dans des voyages qui n'avaient guère d'autre but. Quel âge avais-je? 6 ou 7 ans, je crois. Allongé, à l'ombre d'un tilleul, contemplant un ciel, presque sans nuages, j'ai vu ce ciel basculer et s'engloutir dans le vide. Ça a été ma première impression du néant, et d'autant plus vive qu'elle succédait à celle d'une existence riche et pleine. Depuis, j'ai cherché pourquoi l'un pouvait succéder à l'autre, et par suite, d'une méprise commune, à tous ceux qui cherchent avec leur intelligence, au lieu de chercher avec leur corps et leur âme. Et j'ai pensé qu'il s'agissait de ce que les philosophes appellent le problème du mal. Or, c'était bien plus profond et bien plus grave. Je n'avais pas devant moi une faillite, mais une lacune. Dans ce trou béant, tout, absolument tout, risquait de s'engloutir. De cette date commença pour moi une rumination sur le peu de réalité des choses. Je ne devrais pas dire de cette date, puisque je suis convaincu que les événements de notre vie, en tout cas les événements intérieurs, ne sont que les révélations successives du plus profond de nous-mêmes. Alors les questions de date emportent peu. J'étais un de ces hommes prédestinés à se demander pourquoi ils vivaient plutôt qu'à vivre. En tout cas, à vivre plutôt en marche. Le caractère illusoire des choses fut encore confirmé en moi par le voisinage et la fréquentation assidue de la mer. Une mer qui avait un flux et un reflux, toujours mobile, comme elle l'est en Bretagne, où elle découvre dans certaines baies une étendue que l'œil a peine à embrasser. Quel vide! Des rochers, de la boue, de l'eau. Puisque tout est remis en question chaque jour, rien n'existe. Je m'imaginais la nuit sur une barque, aucun point de repère, perdu, irrémédiablement perdu, et je n'avais pas d'étoile. Ces rêveries n'avaient rien d'amer, je les entretenais avec complaisance. Ce n'était pas un mal littéraire, puisque je n'avais rien lu qui s'y rapporta. C'était un mal inné dont je faisais mes délices. Le sentiment de l'infini n'avait pas encore de nom pour moi, pas plus que n'en avait celui du néant. Il en résultait une quasi-parfaite indifférence, une apathie sereine, l'état du dormeur éveillé. Je parcourais jour après jour ces prairies mornes, ces grèves arides, où rien jamais ne germerait. J'avançais, porté par un flot qui, reculant et avançant, me laissait finalement sur place, pareil à une bouée accrochée au fond de la mer par un câble solide. Il est bien difficile de s'arracher à cette torpeur. Je ne puis pas dire que je l'aimais, je la subissais, non sans plaisir. À quoi cela menait-il? À rien. N'importe quoi mène à quelque chose. Cela seul n'avait pas d'issue. Si la mort était au bout, ma vie lui ressemblait tellement que je n'en aurais pas vu la différence. N'eût été cet instinctif sursaut de l'animal. Comment se fait-il qu'avec un pareil tempérament, je n'ai pas été indifférent à tout? Or, tout me blessait, parce que tout ce qui se passait hors de moi tendait à me faire sentir son peu de valeur vis-à-vis de ce qui seul comptait pour moi. Ma première analyse est incomplète. J'avais un idéal. On peut se refuser aux choses qui vous entourent et s'enfermer dans un domaine neutre qui vous isole et vous protège. Cela signifie que l'on s'aime et qu'on peut être heureux par un égoïsme. Mais si l'on se met au même rang que n'importe quoi et qu'on sente la vacuité du monde, on est tout disposé à prendre en dégoût les mille petits accidents de la vie qui viennent à la traverse. Une blessure passe encore, on en prend son parti. Mais des piqûres d'épingle tous les jours, c'est insupportable. Vu dans sa grandeur, l'existence est tragique. De près, elle est absurdement mesquine. Elle inspire l'idée qu'il faut se défendre contre elle et fait retomber dans des sentiments qu'on n'aurait jamais voulu connaître. Il arrive que ceci vous paraisse préférable à cela, qu'il faille même opter entre ceci et cela. Renoncer à l'un, à tout jamais, pour posséder l'autre. Or ceci vaut-il mieux que cela? J'ai beau dire non, je suis forcé de dire oui. N'est-ce pas crucifiant? Je passe malgré moi de l'instant de l'indifférence à celui du choix. Je me prends au jeu, je cherche dans un éphémère, un absolu qui n'y est pas. Au lieu du silence et du dédain, j'entretiens en moi un tumulte. C'est bien cruel d'avoir à opter entre deux marques de stylo. La meilleure n'est pas forcément la plus chère, et la moins bonne peut être d'un grand usage parce que différente. Il n'y a pas de meilleur et de moins bon. Il y a ce qui est bon à tel moment, ce qui est bon à tel autre. La perfection, je le sais, n'est pas de ce monde. Mais dès qu'on entre dans ce monde, dès qu'on accepte d'y faire figure, on est tenté par le démon, le plus subtil. Celui qui vous souffle à l'oreille, puisque tu vis, pourquoi ne pas vivre? Pourquoi ne pas obtenir le meilleur? Alors ce sont les courses, les voyages. Mais quels beaux instants que ceux où le désir est prêt d'être satisfait. Il n'est pas étrange que l'attrait du vide mène à une course et que l'on saute, pour ainsi dire, à cloche-pied, d'une chose à une autre. La peur et l'attrait se mêlent. On avance et on fuit à la fois. Rester sur place est impossible. Cependant, un jour vient où ce mouvement perpétuel est récompensé. La contemplation muette d'un paysage suffit pour fermer la bouche au désir. Au vide se substitue immédiatement le plein. Quand je revois ma vie passée, il me semble qu'elle n'a été qu'un effort pour arriver à ces instants divins. Y ai-je été déterminé par le souvenir de ce ciel limpide que je passais si longtemps dans mon enfance, couché sur le dos, à regarder à travers les branches et que j'ai vu un jour s'effacer.